Laudetur Jesus Christus.
Léon XIV appelle l'Église universelle à redécouvrir le trésor spirituel de cette lumière d'Orient. Le pape s'exprimait devant les membres de la ROACO, la réunion des œuvres d'aide aux Églises orientales. On y revient juste après les titres. Le pape a aussi exhorté à l'unité pour combattre le fléau de la drogue. En Syrie, ce combat contre le Captagon est bien difficile. Reportage dans ce journal. Les Palestiniens de la bande de Gaza, de plus en plus soumis aux violences des colons israéliens soutenus par l'armée israélienne. La guerre dans la bande de Gaza a encouragé les exactions et les provocations. L'Allemagne durcit sa politique migratoire. Le chancelier Merz a confirmé l'arrêt des aides aux ONG qui viennent au secours des migrants en Méditerranée.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Il est impossible de préserver l'Orient chrétien sans le protéger. Voilà ce qu'a assuré ce matin le pape Léon XIV lors de sa rencontre avec la ROACO, la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales. Alors que le peuple de Dieu dans cette région persévère en tournant son regard vers le ciel, en priant Dieu et en aimant son prochain, le Saint-Père a appelé l'Église universelle à découvrir, Jean-Benoît Harel, le trésor spirituel de cette lumière d'Orient.
Le Proche-Orient est aujourd'hui enveloppé d'une chape de haine qui rend l'air irrespirable et toxique. Ainsi, Xavier, pour le Saint-Père, l'aide fournie par les organismes membres de la ROACO est une bouteille d'oxygène pour les églises orientales, épuisées par les conflits. Léon XIV a demandé ce matin à chacun de rejeter les explications fallacieuses des guerres actuellement en cours et de s'opposer à ce qui semble désormais régir les relations internationales, c'est-à-dire un prétendu droit de contraindre les autres par la force. Comment peut-on continuer à trahir les aspirations de paix des peuples par la propagande mensongère du réarmement, a-t-il tonné, fustigeant les sommes d'argent investies dans l'armement qui engendreront la destruction des écoles et des hôpitaux plutôt que d'investir dans l'éducation ou la santé. Le Saint-Père a ensuite exhorté chaque chrétien à prier, mais aussi à agir, en restant fidèle au Christ, sans imiter Hérode, tuant des enfants qui sont encore aujourd'hui déchiquetés par les bombes, ou sans se laver les mains de la situation actuelle à l'image de Ponce Pilate. En conclusion, Léon XIV a alerté contre l'ignorance de la lumière portée par les catholiques orientaux dans l'Église, certains que leur sens du sacré et leur spiritualité peut apaiser la soif de Dieu latente, mais présente en Occident.
Jean-Benoît Harel, autre rendez-vous ce matin pour le pape à l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, célébrée aujourd'hui. Léon XIV invite les États à démanteler les énormes concentrations d'intérêts et d'organisations criminelles ramifiées, recevant des communautés thérapeutiques et autres structures italiennes dans la cour Saint-Damas du palais apostolique au Vatican. Le Saint-Père a dans son discours souligné que c'est ensemble que l'on arrive à vaincre le mal. Pour le souverain pontife, le combat dirigé contre ce fléau doit être dirigé vers ceux qui font de la drogue et de toute autre addiction leur grande affaire. Au-delà de toute dépendance dégradante, il convient de faire prévaloir l'infinie dignité inscrite en chacun, estime Léon XIV. La lutte contre la drogue, les gouvernements du monde entier y sont confrontés. En Syrie, les nouvelles autorités tentent d'éradiquer le Captagon, cette drogue de synthèse érigée en ressource nationale du temps de Bachar Al-Assad. Des saisies sont toujours régulièrement effectuées à la frontière avec la Jordanie, ce qui n'est rien d'étonnant puisque le gouvernement de transition ne contrôle pas le sud du pays. À Souaïda, fief druze, la sécurité générale n'est ainsi toujours pas autorisée à entrer, ce qui laisse le champ libre aux milices. Le reportage sur place de Manon Chaplin.
Il est à peine 14h et Armad, c'est un prénom d'emprunt, sort de sa poche un sachet en plastique. À l'intérieur, une pilule qu'il écrase contre une table à l'aide d'une carte bancaire. 20 ans qu'il consomme du Captagon aujourd'hui, régulièrement. Il essaie d'arrêter, mais malgré l'arrêt de la production par le régime de Bachar al-Assad et ses alliés, à Souaïda...
Le marché est là. Rien n'a vraiment changé. Il semblerait que certaines personnes continuent de produire.
Mohamed vient d'une des familles les plus influentes de la ville, l'a vu de près le marché évoluer. Il nous emmène sur la place centrale de son quartier. Là-bas, les kiosques, c'est comme ça qu'ils se font appeler, se comptent par dizaines, des échoppes où la vente se fait sous la table.
En général, sur les étals, ils vendent des jouets, des vêtements, des accessoires. C'est une couverture.
À Souaïda, le marché du Captagon a toujours été aux mains des puissantes familles et des factions armées. La chute du régime n'y a rien changé. Jusqu'à présent, la ville conserve une certaine autonomie. Les autorités de Damas ne sont toujours pas autorisées à rentrer, ce qui laisse le champ libre à ses milices.
Si on commence à vouloir faire arrêter ce trafic, on va tout simplement créer une guerre civile.
La faction Al-Karama lutte officiellement depuis 10 ans contre le trafic. Il coopère depuis peu avec une police judiciaire locale, mais estime qu'il serait plus efficace de travailler en concordance avec Damas, son porte-parole.
L'action de la police judiciaire n'est qu'un simulacre. Ils n'ont pas d'outils, pas d'équipement logistique. Ils n'ont pas la capacité d'arrêter ces dealers, ni la capacité de les mettre en prison.
Ni la capacité, ni même peut-être l'envie. Hors micro, plusieurs témoins affirment que cette milice joue un rôle ambigu, travaillerait plus à éliminer les concurrents plutôt qu'à stopper le trafic réellement. À Damas, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
C'est une des préoccupations du Saint-Père, l'aide humanitaire aux Palestiniens de la bande de Gaza. Ce matin, 35 personnes ont été abattues par l'armée israélienne en différents points du territoire occupé alors qu'elles se rendaient à des points de distribution. Le blocus total de la bande de Gaza dénonce par l'autorité palestinienne qui critique aussi l'intensification des attaques de plus en plus meurtrières perpétrées par des colons israéliens en Cisjordanie. Dernier exemple en date, hier soir, 3 Palestiniens vivant dans un village ont été tués par des colons et des soldats israéliens. À Jérusalem, les détails avec Valérie Ferrand.
C'est les attaques des colons israéliens sous protection militaire contre les villages palestiniens sont tristement habituelles en Cisjordanie occupée. Elles ne cessent de devenir plus violentes et plus meurtrières, comme celle d'hier soir dans le village de Kfor Malik, près de Ramallah, qui a fait 3 morts et plusieurs blessés parmi les habitants qui tentaient de se protéger comme ils le pouvaient. Témoignage du maire.
Un groupe de dizaines de colons ont envahi le village dans sa partie sud et ont commencé à incendier les voitures et les maisons des habitants. Il y a 2 jours, un adolescent de 13 ans a été tué par l'armée israélienne dans cette même zone.
Face à cette intensification constante de la violence meurtrière des colons et des soldats israéliens en Cisjordanie, le mouvement présidentiel, le Fatah, a appelé à une mobilisation générale pour relancer la résistance populaire, dénonçant ce qu'il a qualifié de guerre génocidaire israélienne toujours en cours dans la bande de Gaza et qui, a-t-il souligné, s'étend à l'ensemble de la Cisjordanie, y compris dans la partie occupée de Jérusalem depuis 1967. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Les pays européens les plus fermes sur les questions d'immigration réunis en marge du sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Ils sont une quinzaine, dont l'Italie, la Hongrie, la Pologne et le Danemark à se retrouver régulièrement. Leur objectif, c'est de rendre plus stricte la politique migratoire de l'UE. Pour la première fois, l'Allemagne y participe. Son chancelier, Friedrich Merz, avait annoncé avant de se rendre à Bruxelles, d'ailleurs, l'arrêt de l'aide financière accordée depuis des années aux associations qui secourent les migrants méditerranéens. Une mesure qui s'inscrit dans une politique plus dure envers l'immigration illégale. À Berlin, des détails avec Delphine Nerbollier.
La mesure était attendue, mais elle crée la stupeur pour les associations concernées. Les 10 organisations qui participent au secours de migrants en Méditerranée ne recevront plus de subventions de l'État fédéral, et cela a déjà commencé début mai. Cela concerne SOS Méditerranée, CI ou encore Sant'Egidio. En 10 ans, les 21 ONG actives en Méditerranée ont sauvé 175 000 personnes. Mais voilà, le parti du chancelier Friedrich Merz a fait de la lutte contre l'immigration illégale un de ses chevaux de bataille. La CDU et la CSU considèrent que les ONG en question contribuent indirectement au mouvement migratoire et favorisent le travail des passeurs. Depuis 2 ans déjà, la droite allemande, mais aussi l'extrême droite, estime que l'argent des contribuables ne doit pas être utilisé à cet usage. Les associations en question, soutenues par les 2 principales églises, catholiques et protestantes du pays, sont vent debout. Elles y voient un signal catastrophique qui ne va pas réduire l'immigration illégale, mais faire augmenter les drames et le nombre de morts. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
Avant de se quitter, sachez que cet après-midi vers 16h20, heure de Rome, vous pourrez suivre en direct commenté en français sur notre site internet, notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, la rencontre entre Léon XIV et les participants à la rencontre pour les prêtres. En attendant, très bonne journée à toutes et à tous.
À petits pas, le pape Léon XIV se présente au monde. Et à partir de ce moment, ses pas sont aussi les nôtres. Soutenez les pas de Léon XIV, faites un don au denier de Saint-Pierre.
Allez sur le site www.obolodisanpietro.va.
Vous écoutez KTO Radio. KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 14e. Du centre à la circonférence et de la circonférence au centre se meut l'eau dans un vase rond selon qu'elle est frappée en dehors ou en dedans. Ceci soudain me vint à l'esprit, sitôt que de Thomas se tut la glorieuse âme par la similitude avec son parler et celui de Béatrice, à qui, après lui, il plut de recommencer ainsi. Celui-ci a besoin, et ni sa voix ni sa pensée même ne vous le disent, d'aller à la racine d'une autre vérité. Dites-lui si la lumière dont se fleurit votre substance avec vous demeurera éternellement comme elle est maintenant. Et si elle demeure, dites comment, lorsque vous serez redevenu visible, il se pourra qu'elle ne vous soit pas à voir un empêchement. Comme quelquefois, par plus d'allégresse poussée et tirée, ceux qui dansent en rond élèvent la voix et dans leurs gestes s'animent de plus de gaieté, ainsi, à la prompte et dévote prière, les cercles saints montèrent dans leur danse et leur merveilleux chant une joie nouvelle. Qui se lamente de ce qu'ici l'on meurt pour vivre là-haut, ne voit pas quel y est le rafraîchissement de l'éternelle pluie. C'est un et deux et trois qui toujours vit et règne toujours en trois et deux et un, non circonscrit et circonscrivant tout, trois fois était chanté par chacun de ses esprits, avec une telle mélodie qu'à tout mérite elle serait une pleine récompense. Et dans la plus divine lumière du cercle le plus étroit, j'entendis une voix modeste, telle peut-être que fut celle de l'ange à Marie, répondre: aussi longue que sera la fête du paradis, aussi longtemps notre amour fera rayonner autour de soi un pareil vêtement. Son éclat suit l'ardeur, l'ardeur la vision, et celle-ci est égale à la grâce surajoutée à sa puissance. Lorsqu'elle aura revêtu la chair glorieuse et sainte, plus étant complète plaira notre personne. Ce pourquoi s'accroîtra ce que de gratuite lumière nous donne le souverain bien, lumière qui nous rend apte à le voir, d'où doit croître la vision, croître l'ardeur qu'elle allume, croître le rayon qui de l'ardeur vient. Mais comme le charbon qui jette de la flamme et en éclat la surpasse, tellement que distinct il y apparaît, ainsi cette splendeur qui maintenant nous enveloppe sera vaincue par l'éclat de la chair qu'aujourd'hui la terre recouvre. Et point ne vous fatiguera cette éclatante lumière, parce que seront forts les organes du corps à tout ce qui pourra nous délecter. Tant me parurent animés et promptes l'un et l'autre cœur à dire amen, que bien montrèrent-ils le désir des corps morts, peut-être non pour eux seuls, mais pour les mères, les pères et les autres qui leur furent chers, avant qu'ils fussent des flammes éternelles. Et voilà qu'au-dessus de la lumière qui était là, en est autour une autre de pareil éclat, à la manière d'un horizon qui s'éclaircit. Et comme, quand monte le premier soir, de nouveaux astres commencent à se montrer dans le ciel, de telle sorte que la vue paraît et ne paraît pas vraie, il me parut là commencer à voir de nouvelles substances tourner en dehors des deux autres cercles. Ô vrai rayonnement de l'Esprit-Saint! Comme soudain son éclat frappa mes yeux, qui, vaincus, point ne le supportèrent. Mais si belle et si riante à moi se montra Béatrice, que les choses alors vues doivent rester avec les autres que la pensée laissa derrière soi. D'elle, mes yeux reprirent la force de se relever, et je me vis transporté seul avec ma dame en une plus haute gloire. Bien m'aperçus-je que j'avais monté à l'éclat flamboyant de l'étoile qui me sembla plus rouge que celle déjà vue. De tout cœur, et dans ce langage qui est le même en tous, à Dieu j'offris un holocauste, tel qu'il convenait à la grâce nouvelle. Et dans ma poitrine, pas encore n'était épuisée l'ardeur du sacrifice, que je connus qu'il était accepté favorablement. Au-dedans de deux rayons, m'apparaissent des splendeurs si vives et si rouges que je dis « Ô Hélios, qui ainsi les orne !» Comme, distincte des petites et des grandes lumières, entre l'épaule du monde blanchie galaxie, de manière que pour de très savants elle est un sujet de doute, ainsi ces rayons constellés formaient dans la profondeur de Mars le signe vénérable que dans un cercle forme deux lignes qui se coupent carrément. Ici, ma mémoire vint l'esprit, car sur cette croix, tellement luisait le Christ que je ne sais trouver rien à comparer. Mais qui prend sa croix et suit le Christ m'excusera d'y renoncer lorsque sur cet arbre il verra le Christ rayonner comme l'éclair. D'un bras à l'autre et du sommet aux pieds, se mouvaient des lumières, scintillant fortement lorsqu'elles se joignaient et se croisaient. Ainsi se voient ici, droites et torses, rapides et lentes, longues et courtes, changeantes à la vue, les parcelles des corps se mouvoir, dans le rayon duquel parfois se borde l'ombre que pour leur défense se font les hommes avec art et industrie. Et comme la guigue et la harpe avec plusieurs cordes harmonieusement tendues rendent un son doux à tel qui ne distingue pas les notes, ainsi les lumières qui là m'apparurent se formaient sur la croix une mélodie qui me ravissait sans entendre l'hymne. Je reconnus qu'elle contenait de hautes louanges parce qu'à moi venait « Tu ressuscites et vins », comme à quelqu'un qui ouit et n'entend pas. De cela tant je m'en amourais que jusque-là nulle chose ne me lia de si doux lien. Peut-être ma parole paraîtra trop hardie, mettant après le plaisir des beaux yeux dont la vue apaise mon désir. Mais qui pense que plus ils s'élèvent, plus les sceaux vivants de toute beauté sont féconds, et que je ne m'étais point retourné vers cela, peut m'excuser de ce dont je m'accuse pour m'excuser, et voir qu'est vrai ce que je dis, le plaisir saint n'étant point ici pleinement épanoui, parce qu'en montant il devient plus pur. » Chant 15e. Une bénigne volonté, dans laquelle toujours se manifeste l'amour qui droitement inspire, comme dans une mauvaise la cupidité, imposa silence à cette douce lyre et fit reposer les saintes cordes que la droite du ciel relâche et tend. Comment, à de justes prières, seraient-elles sourdes ces substances qui, pour me donner le désir de les prier, se turent de concert? Bien n'est que sans fin pleure, qui, par amour de ce qui ne dure pas éternellement, de ce droit amour se dépouille. Tel que dans le ciel tranquille et pur, quelquefois court subitement un feu, qui meut les yeux auparavant en repos, et semble une étoile qui change de lieu, si ce n'est qu'en celui où il s'allume, aucune ne se perd, et que lui dure peu. Tel du bras qui s'étend à droite au pied de cette croix, courut un astre de la constellation qui là resplendit, et de son ruban, point ne sortit la gemme, mais dans la bande brillante elle courut, semblable à un feu derrière l'albâtre. Ainsi s'avança la pieuse ombre d'Anchise, si mérite foi notre plus grande muse, lorsque dans l'Élysée il aperçut son fils. Ô sanguis meus, ô super infusa, gratia Dei sicut tibi cui, bis unquam celi januar eclusa, ce qui signifie, ô mon sang, Ô surabondante grâce de Dieu, à qui, comme à toi, la porte du ciel fut-elle jamais ouverte de foi? Ainsi cette lumière, ce qui attira sur elle mon attention, puis je tournai le visage vers Madame, et d'ici et de là, je fus stupéfait, car dans ses yeux brillait une telle joie que je crus avec les miens toucher le fond de ma grâce et de mon paradis. Ensuite, l'esprit, délectable à ouïr et à voir, ajouta des choses que je ne compris point, si profondes étaient ses paroles. Et non par choix, il se cacha de moi, mais par nécessité, ses pensées surpassant la portée des mortels. Lorsqu'assez détendu fut l'arc de l'ardente affection, pour que le parler descendît à la portée de notre intelligence, la première chose que j'entendis fut « Béni sois-tu, toi trois et un, qui envers ma semence est si bon. » Et il continua « Un doux désir depuis longtemps conçu en lisant dans le grand livre, où ni blanc ni noir jamais ne se change, tu as satisfait, mon fils, au-dedans de cette lumière dans laquelle je te parle, grâce à celle qui pour le haut vol te revêtit d'elle. Tu crois que ton pensée vient à moi de celui qui est le premier, comme de l'un, si on le connaît, rayonne le 5 et le 6. Et pour cela, point tu ne me demandes qui je suis et pourquoi je me montre à toi plus rempli d'allégresse qu'aucun autre de cette troupe joyeuse. Est vrai ce que tu crois, que ceux de cette vie, petits et grands, voient dans le miroir où, avant que tu penses, ton pensée se découvre. Mais afin que l'amour sacré, dans lequel je veille en perpétuelle contemplation et qui m'altère d'un doux désir se rassasie mieux, que ta voix hardie et joyeuse, avec assurance, exprime la volonté, exprime le désir auquel ma réponse est déjà décrétée. Je me tournai vers Béatrice, et elle m'entendit avant que je parlasse et me sourit un signe qui fit croître les ailes de mon vouloir. Puis je commençai ainsi. L'amour et le savoir, lorsque vous apparut la première égalité, d'un même poids en chacun de vous, se firent parce que, dans le soleil qui vous illumina et vous embrassa de sa chaleur et de sa lumière, ils sont si égaux qu'imparfaites sont toutes ressemblances. Mais le désir et le savoir ont dans les mortels, par la cause à vous manifeste, des ailes diversement emplumées. D'où moi, qui suis mortel, je sens en moi cette inégalité et pour cela ne rends grâce qu'avec le cœur de l'accueil paternel. Je te supplie, vivante topaze, qui orne ce précieux joyau, de me rassasier de ton nom. Ô mien rameau, en qui je me suis complu durant l'attente même, je fus ta racine. Ainsi répondant, commença-t-il. Puis il me dit, celui de qui ta race tire son nom, et qui, 100 ans et plus à tourner autour du mont, sur la première corniche, fut mon fils et ton bisaïeul. Bien convient-il que par tes œuvres tu lui abrèges la longue fatigue. Florence, au-dedans de l'antique enceinte, d'où elle entend encore tierce Sénone, vivait en paix, sobre et pudique. Elle n'avait ni chaîne, ni couronne, ni femme attifée, ni ceinture qui attirât les regards plus que la personne. La fille, en naissant, ne faisait point encore peur au père. Le temps et la dot, en deçà et en delà, ne s'éloignant pas de la mesure. On n'y voyait point de maison vide de famille, n'étant pas encore venu Sardanapale pour montrer ce qu'on peut faire dans une chambre. N'avait pas encore vaincu Montemalo, votre Uccellatoio, qui, comme il l'a vaincu à monter, le vaincra à descendre. J'ai vu Bélincion Bertie à l'essaim de cuir et d'eau, et sa femme revenir du miroir sans que son visage fût peint. Et j'ai vu les Nerli et les Del Vecchio contents d'une simple peau, et leur femme du fuseau et de la quenouille. Ô fortunée! Chacune d'elles était assurée de sa sépulture, et aucune encore n'était pour la France délaissée dans le lit. L'une veillait au son du berceau et consolait l'enfant en ce premier langage qui ravit les pères et les mères. L'autre, de la quenouille, tirant la chevelure, discourait avec sa famille des Troyens et de Fiesole et de Rome. Autant à merveille eût été alors une Sianghella, un Lapo Salterello, qu'aujourd'hui le seraient un Cincinnatus et une Corneli. D'une si reposée, d'une si belle vie entre citoyens, d'une communauté si sûre, d'une si douce demeure, Marie, appelée à grands cris, m'ouvrit l'entrée. Et dans votre antique baptistère, ensemble je fus chrétien et Cacciaguida. Moronto fut mon frère et Élisée, ma femme vint à moi du Val de Pau et de là ton surnom. Puis je servis l'empereur Conrad et il me ceignit chevalier dans sa milice, tant par bien ouvré lui fus-je agré. À suite, j'allais combattre l'iniquité de cette loi dont le peuple usurpe par la faute du pasteur votre juste droit. Là, par cette gente impure, je fus arraché du monde trompeur, dont l'amour souille tant d'âmes, et du martyre je vins à cette paix. Chant 16e. Ô notre chétive noblesse de sang, que de toi l'on se glorifie ici-bas où languit notre amour, jamais ne me sera-ce chose merveilleuse, puisque là où point ne dévie le désir, je dis dans le ciel, je m'en glorifiais. Bien es-tu un manteau qui se raccourcit vite, si de jour en jour on y ajoute le temps autour promenant ses ciseaux. Par vous, dont Rome usa la première et dans lequel moins persévérèrent ses habitants, recommencèrent mes paroles. D'où Béatrice, qui était un peu à l'écart, parut être celle qui toussa à la première faute écrite de Ginevra. Je commençais « Vous êtes mon père. De parler, vous me donnez toute hardiesse. Vous m'élevez au-dessus de moi-même. Partant de ruisseaux, mon âme se remplit d'allégresse. » Qu'elle se réjouit de soi, de ce qu'elle peut la supporter sans se briser. Dites-moi donc, ô ma tige chérie, quels furent vos ancêtres et quelles années se comptaient dans votre enfance? Dites-moi donc ce qu'était alors la bergerie de Saint-Jean et qui, en elle, étaient les gens dignes des plus hauts sièges. Comme s'avive au souffle des vents le charbon dans la flamme, ainsi vis-je à mes caressantes paroles resplendir cette lumière. Et comme à mes yeux elle se fit plus belle, ainsi d'une voix plus douce et plus suave, mais non dans ce moderne langage, elle me dit « Du jour où il fut dit Ave à l'enfantement par lequel ma mère, maintenant sainte, s'allégea de moi, qu'alors qu'elle portait, 550 et 30 fois, ce feu vint à son lion pour se renflammer sous ses pieds. Mes anciens et moi, nous naquîmes dans le lieu où premièrement trouve le dernier quartier, celui qui court votre jour annuel. De mes ancêtres, il suffit d'ouïr ceci. Ce qu'ils furent et d'où ils vinrent, plus honnête est-il de s'en taire que d'en discourir. Tous ceux qui, en ce temps, propres à porter les armes, vivaient là entre Mars et Baptiste, étaient le cinquième de ceux aujourd'hui vivants. Mais la commune, maintenant mêlée de ceux de Campi et de Certaldo et de Figuiné, se voyait pure alors dans le dernier artisan. Combien il serait mieux que marquassent vos confins Galuzzo et Trepiano et que vos voisins seulement fussent ceux dont je parle que de les avoir dedans et de supporter la puanteur du vilain Aguglione et de celui de Signa qui, pour fourber, a l'œil si perçant. Si la gente qui dans le monde le plus forligne n'eût pas été marâtre à César, mais bénigne comme une mère à son fils, tel a été fait Florentin, échange et trafic qui serait retourné à Simifonte, où son aïeul allait mendiant. Montemurlo serait encore au compte, serait les Cerchi dans la pieve d'Agone, et peut-être dans les Val di Grieve, les Buondelmonti. Toujours la confusion des personnes, fut le principe des maux de la cité, comme dans le corps l'aliment qui se surajoute. Taureau aveugle plus vite tombe qu'aveugle agneau, et souvent tranche plus et mieux une épée que cinq. Si tu regardes Louni et Urbisalia, comme elles s'en sont allées, et comme après elles s'en vont Quisi et Sinigalia, ouïr comment les familles déclinent ne te paraîtra chose nouvelle ni étrange, puisque les cités ont un terme. Toutes vos choses ont leur mort comme vous, mais elle vous est voilée en quelques-unes qui durent longtemps, et vos vies sont courtes. Et comme dans le mouvement du ciel de la lune couvre et découvre sans cesse les rivages, ainsi de Florence fait la fortune, par quoi ne doit étonner ce que je dirais des grands Florentins dont la renommée se cache dans le temps. J'ai vu les Ougui et j'ai vu les Catellini, les Filippi, les Grecchi, les Ormani et les Alberici, citoyens illustres déjà sur le déclin. Et j'ai vu aussi grands qu'anciens ceux de la Sanella et ceux de l'Arca, et les Soldanieri et les Ardinghi et les Bostici. Au-dessus de la porte, maintenant chargée d'une nouvelle félonie, si pesante que bientôt s'enfoncera la barque, étaient les Ravignani, de qui est descendu le comte Guido, et quiconque ensuite a pris le nom du grand Bellincione. Savaient ceux de la Pressa comment l'on doit gouverner, et dans sa maison, Galigaio avait déjà la garde et le pommeau doré. Grande était déjà la colonne de verre, grands les Sacchetti, les Giochi, les Sifanti et les Barucchi et les Galli, et ceux qui rougissent à cause du boisseau. La souche d'où sortirent les Calfucci était déjà grande, et déjà sur les chaises curules étaient montés les Sizzi et les Arigucci. Oh, quels ai-je vu ceux qu'a abattu leur orgueil? Les boules d'or, par toutes leurs hautes actions, aidaient à fleurir Florence. Ainsi faisaient les pères de ceux qui, toutes les fois que votre église vaque, assemblée s'engraisse. La race outrecuidante qui se fait dragon à qui fuit et envers qui montre ou la dent ou la bourse s'apaise comme un agneau, s'élevait déjà mais de petites gens de sorte que point ne plût à Ubertino Donato que son beau-père le fit leurs parents. Déjà dans le marché, Caponsacco était descendu de Fiesole, déjà dans le marché, Caponsacco était descendu de Fiesole, et déjà distingué parmi les citoyens étaient Guida et Infangato. Je dirais une chose incroyable et vraie. Dans la petite enceinte, on entrait par une porte qui tirait son nom de ceux de la Pera. Tous ceux qui portent dans leur écusson la belle enseigne du grand baron, dont la fête de Thomas renouvelle le nom et les louanges, tinrent de lui la chevalerie et le privilège, bien qu'au peuple se soit réuni celui qui l'entoure d'une bande. Déjà existaient les Gualterotti et les Importuni, et serait encore le Borgo plus tranquille s'il ne fût survenu de nouveaux voisins. La maison d'où naquirent vos pleurs, par la juste colère qui tant de vous a conduit à la mort et a mis fin à votre vivre joyeux, était honorée, elle et son parentage. Ô Buondelmonte, qu'à mal tu as fui ces noces par l'instigation d'autrui. Beaucoup seraient joyeux qui sont tristes si à Emma Dieu t'avait donné la première fois que tu vins à la ville. Mais à cette pierre mutilée qui garde le pont, Florence, au terme de sa paix, devait une victime. Avec ces gens et avec d'autres encore, j'ai vu Florence dans un tel repos qu'elle n'avait point sujet de pleurer. Avec ces gens, j'ai vu le peuple si juste et si glorieux que jamais à la hampe le lys n'était placé à rebours, ni par la division fait vermeil.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio. Kasi mama tukuze bwana.
Radio.
Bonjour. Quand je peignais dans l'enfance, j'avais entendu dire qu'il valait mieux ne pas trop utiliser le noir, car il était absent de la nature. Il y avait toujours un peu de lumière qui se reflétait. Ayant vérifié que la plupart des peintres utilisent en effet maintes nuances pour colorer les espaces sombres, j'ai gardé cette idée en tête. Le noir absolu n'existe pas. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du Vanta Black. Inventé en 2012 par une société britannique, c'est une matière réalisée avec de microscopiques tubes de carbone serrés les uns contre les autres. Le mot Vanta contracte une formule anglaise qui se traduit par « réseau de nanotubes alignés verticalement ». Ces nanotubes sont 10 000 fois plus fins qu'un cheveu. Ultra cher, Vanta Black existe en spray. Quand on en recouvre la surface, un objet prend une couleur noire d'une profondeur inimaginable. Car le Vanta Black absorbe presque toute la lumière, 99,965%. Je précise pour les érudits que l'indice de réfraction de cette matière est proche de celle de l'air. Les tubes sont disposés de telle sorte qu'ils n'occupent que 1% du volume du revêtement. Ce dernier est donc très léger. Un mètre carré de Vanta Black pèse 2,5 grammes. Imaginez une feuille d'aluminium. Elle est monochrome. Si vous la froissez puis l'aplanissez, 1000 pliures vous sautent aux yeux, comme autant de facettes d'un kaléidoscope. Tout cela vibre en reflétant la lumière sous les multiples angles du froissement. Eh bien, si vous recouvrez ce papier d'alu froissé de Vanta Black, tous ces détails disparaissent pour laisser la place à un noir uniforme qui défie l'entendement. Je vous entends me dire « Bon, mais à quoi ça sert ?» Du fait de sa composition, la matière transforme la quasi-totalité de la lumière en chaleur, en l'emprisonnant dans ses microtubes. Seule une infime portion de lumière s'en échappe. Elle est aussi très hydrophobe, elle ne se mouille pas. Insonore, elle résiste aux vibrations, aux chocs et à des températures extrêmes. On l'utilise en optique et en astronomie. Ce noir dont on recouvre l'intérieur d'un appareil absorbe les lumières parasites. L'armée américaine s'y intéresserait pour ses avions furtifs. BMW a présenté en 2019 un SUV recouvert de Vanta Black. On ne distingue plus ses formes. Cela lui donne un aspect menaçant et irréel. Le cerveau humain est dérouté. Le volume semble disparaître au profit du 2D. En 2016, le plasticien Anish Kapoor a obtenu l'exclusivité de l'usage artistique du Vanta Black. Il s'en vantait en déclarant « Imaginez un espace si sombre qu'en y pénétrant, vous perdez toute idée de qui vous êtes, d'où vous êtes et de la conscience du temps ». Pour une exposition, il a réalisé un trou noir dont il est impossible aux visiteurs d'évaluer la profondeur. Tollé, chez les autres artistes, de quel droit l'un d'entre eux leur interdirait le noir le plus profond en le privatisant ? Encore un coup du marché. Mais voilà qu'en 2019, des chercheurs américains du MIT ont découvert, paraît-il accidentellement, un noir 10 fois plus noir que le Vanta Black, c'est-à-dire reflétant 10 fois moins de lumière. Ils ont annoncé que ce noir de chez noir resterait en accès libre, versé au commun de l'humanité. C'est une bonne nouvelle.
Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom trois fois saint, tous ses serviteurs.
Bénissez son frère.
Louez le Seigneur.
Élevez les mains.
Tout puissant vainqueur.
Bénissez son frère.
Chantez sa gloire à jamais. Acclamez-le. Bénissez-le. Serviteur du Seigneur.
Vous écoutez KTO Radio.
Vous l'avez remarqué, nous sommes tous des machines à culpabiliser. Nous avons un sens de la justice très poussé, trop parfois. Quand il nous arrive un pépin, nous pensons facilement qu'il s'agit d'une punition divine pour une faute connue ou une faute cachée. Il n'en est rien. Le père Jacques Loewe est allé puiser dans un conte des frères Grimm une petite histoire pour nous sortir de cette logique, de cette réflexion. C'est l'histoire d'un petit tailleur rusé qui arrive à entrer au paradis, je ne sais par quel stratagème, et il y arrive, sans le vouloir, le jour où toute la cour céleste est partie en voyage. Donc il inspecte le paradis, il monte sur le trône de Dieu grâce à l'escabeau, sans doute celui dont il est question dans le psaume 110, vous savez, « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis l'escabeau de mes pieds. » Et puis voilà que du haut du paradis, on voit tout. Donc il se penche comme sur un balcon pour mieux voir la terre. Et juste à ce moment-là, il voit sa voisine en train de commettre un vol de je ne sais quoi. Son sang ne fait qu'un tour et il cherche comment la punir. Alors il va chercher l'escabeau et le lance par-dessus bord. Juste à ce moment-là, rentre la cour céleste. Alors, il se cache lui-même derrière le trône, par peur d'être pris en flagrant délit. On ne trouve pas l'escabeau du bon Dieu. Alors les anges le cherchent de partout et finissent par trouver le petit tailleur qui se cache tout timide derrière le trône. Il demande « qu'est-ce qu'il fait là ?» et le tailleur explique. Et les anges lui disent « mais dis donc, toi-même, est-ce que tu n'as pas compté souvent beaucoup plus d'étoffes de tissu que tu n'en avais utilisé ?» Et puis le bon Dieu à ce moment-là lui dit « et si je devais agir comme tu l'as fait chaque fois que les hommes font une bêtise, eh bien le mobilier du ciel ne suffirait pas. » Voilà, alors que fait Dieu ? Eh bien la réponse nous est donnée dès le début de la Bible, vous savez, dans l'épisode du buisson ardent, il nous dit qu'il voit la misère de son peuple et qu'il descend pour le délivrer. Cela est très bien dit dans une histoire que vous connaissez déjà et qui est sous différentes versions. Là, je l'ai trouvée dans celle-ci, je vous la livre telle qu'elle. Il s'agit de Romoletto. Romoletto vit sur le bord du Tibre, le fleuve qui traverse Rome. Et voilà que des orages, depuis quelques jours, font monter dangereusement le lit du Tibre. Et ça devient de plus en plus dangereux. Il y a une eau jaunâtre et menaçante qui devient de plus en plus grosse. Et Romoletto est très fervent, il est très attaché au Seigneur, il se met en prière et il entend le Seigneur lui dire clairement « Romoletto, aie confiance, je te sauverai. » Bien, il est très très confiant, très heureux d'avoir reçu cette motion intérieure. Et quand les pompiers viennent le chercher en Zodiac, vous savez, ces petits canaux pneumatiques à moteur, eh bien, il oppose une candeur formidable. « Moi, j'ai une assurance supérieure, ne vous inquiétez pas pour moi. » Ça, c'était 11h. Puis à 15h de l'après-midi, c'est la protection civile qui, cette fois-ci, lui envoie un Zodiac pour venir le délivrer. Et il leur répond depuis l'étage, il a dû monter à l'étage pour échapper aux eaux. Mais il répond avec la même candeur, le même enthousiasme. « Le Seigneur me sauvera, il me l'a promis. » Alors, la protection civile s'en va. La troisième fois, ce sera la Croix-Rouge qui viendra avec son canot pneumatique, son Zodiac. Mais il refusera alors qu'il est déjà agrippé à la cheminée extérieure, bien sûr, comme un lierre à l'arbre. Et puis, une fois que la Croix-Rouge est partie, eh bien, ce qu'ils avaient redouté arrive, c'est qu'une lame de boue emporte Romoletto. Il arrive au ciel, rouge de colère. Le Seigneur le calme et lui dit, « Dis donc, Romoletto, je t'ai tout de même envoyé 3 zodiaques. » Alors, quand nous sommes dans l'épreuve, eh bien, il faut nous poser 2 questions. Premièrement, quels sont les zodiaques que le Seigneur m'envoie ? Souvent, c'est dans la simplicité, l'humilité, mais en les repérant, l'espérance, le niveau de l'espérance monte en nous. Deuxièmement, il faut nous demander aussi quels appels il me lance. Et notamment, est-ce que moi-même, je ne peux pas devenir zodiaque pour les autres ? Dans ma paroisse, je connais plusieurs personnes qui ont perdu un enfant dans un accident de voiture et qui ont donné sens à cette douleur extrême en créant une association contre la violence routière. Et alors que ce sont des personnes très simples, elles sont capables d'aller parler dans les lycées, dans les collèges, de la prudence à avoir sur la route. Et cela a donné sens, elles ont répondu à l'appel. Au fond, un peu comme le Seigneur qui lui-même est très inventif et très créatif, un prêtre qui vit dans un pays arabe m'a dit avec humour un jour, le Seigneur ne pouvait pas mettre dans ces pays son grand signe d'amour, c'est-à-dire la croix, puisque les musulmans la refusent, eh bien il l'a caché sur le dos des ânes. Soyons aussi créatifs que lui.
Réconcilier.